beaucoup d'eau, une soif intense. L'enfant peut émettre beaucoup d'urine, donc une polyurie. La femme peut avoir envie de beaucoup manger, ce qu'on appelle une polyphagie. Elle est fatiguée à tout moment. La femme peut aussi se plaindre seulement de pleurites vaginaux.
Quand une femme enceinte remarque tous les signes que vous venez de développer, qu'est-ce qu'elle devait faire?
Bon, naturellement, elle devrait aller se faire consulter. Et lors de la consultation, on va lui faire une prise de sang, on va l'évaluer et finalement, après un bilan, on va faire la glycémie. Après ça, le médecin ou le clinicien va analyser par rapport aux valeurs et va conclure à un diabète gestationnel. Parfois aussi, c'est à l'occasion de rien, elle vient pour une consultation prénatale et finalement, on fait l'examen, une prise de sang, on découvre qu'elle fait le diabète gestationnel.
Quand la femme est enceinte et qu'elle développe un diabète, quels sont les risques pour le bébé à naître ou pour le bébé qui est encore dans le ventre?
Le diabète est une maladie grave, mais pas aussi grave comme on le croit si on la suit ou bien si on est suivi. Pour le fœtus, vous savez, l'effet de cycle peut amener à des anomalies chromosomiques, surtout si c'est au premier trimestre de la grossesse, quand l'enfant se forme.
Quelles peuvent être les conséquences?
Ça peut vous amener à des avortements ou carrément à des malformations congénitales liées à l'hyperglycémie, à l'excès de sucre qui est en train de passer dans la circulation.
L'enfant à naître peut-il hériter de cette hyperglycémie?
Cette hyperglycémie peut aussi se transmettre à l'enfant, ce qu'on appelle l'hyperglycémie fœtale, fœto-maternelle ou materno-fœtale, qui va transiter vers l'enfant. Et cela pourra induire à la longue une souffrance fœtale. Cette fois-là, c'est une souffrance fœtale chronique par intoxication due au glucose.
Les complications liées au diabète gestationnel peuvent-elles conduire à la mort?
Ça peut aussi créer une mort fœtale in utero, ce qu'on appelle mort subite. Surtout quand on arrive autour de la 36e semaine. L'enfant aussi peut développer une détresse respiratoire à la naissance, même pendant la grossesse, à cause d'une glycogénie ou une polyurie fœtale qui va être responsable d'excès d'eau ou d'une polyhydramnose. C'est un peu ça, des complications qui peuvent survenir pendant la grossesse.
Quelles sont les complications qui pourraient survenir pendant l'accouchement?
Lors de l'accouchement, par exemple, l'enfant qui va naître très gros, ce qu'on appelle un macrosome fœtal, ça peut avoir des répercussions et lors de la naissance. Si l'enfant est trop gros, il peut avoir, lors de son passage dans les voies génitales, là, l'enfant peut connaître une fracture des épaules lors de sa sortie ou une paralysie carrément des membres supérieurs ou une élongation du plexus brachial. Il faut aussi noter que cet enfant qui naît avec hyperglycémie, c'est un enfant fragile qui peut faire des hypoglycémies lors de la naissance ou après la naissance. Il peut faire des hypocalcémies qui vont amener l'enfant à être très fragile à la naissance.
Nous avons vu que le diabète peut entraîner beaucoup de complications à l'enfant qui est encore dans le ventre ou pendant la naissance. Mais est-ce qu'il y a un risque que lorsque l'enfant naît, qu'il développe plus tard un diabète?
C'est justement ça, parce qu'un enfant qui naît d'une mère diabétique peut faire ce qu'on appelle un hyperinsulinisme résiduel. Cela pourrait avoir des conséquences plus tard dans sa vie s'il n'est pas soigné correctement. C'est un enfant qui est prédisposé déjà à être obèse dans l'avenir. Vous savez que l'obésité appelle le diabète et vice-versa.
Docteur, nous avons vu qu'il y a beaucoup de complications pour le bébé. On veut savoir si une femme qui développe un diabète pendant la grossesse peut aussi connaître des complications pendant l'accouchement, pendant la grossesse ou après l'accouchement. Quelles peuvent être ces complications?
La mère qui fait le diabète peut avoir deux groupes de complications. Le premier groupe de complications, ce sont des complications liées d'abord au diabète, qu'il soit chez la femme enceinte ou chez la personne normale. Là, il y a des complications, ce que nous appelons des complications aiguës, c'est par exemple les comas, la femme peut entrer en coma. Il y a aussi des complications chroniques, c'est déjà des pieds diabétiques ou bien des AVC. Ça, c'est lié au diabète purement.
Et quels sont les risques d'un diabète gestationnel pour la femme?
Comme je l'ai dit tantôt, lié à la femme qui porte une grossesse, la femme peut développer des complications liées à l'accouchement. Un bébé qui est trop grand va faire que la femme ne saura pas la mettre au monde par les voies naturelles. Ça va amener à faire des césariennes. Parfois, quand on ne fait pas des césariennes, l'enfant peut naître par des voies basses, mais la mère va faire des déchirures et des parties molles. Et même l'utérus là, qui est trop gros, va amener à des atonies utérines et parfois aussi à des hémorragies de poche partout.
Le diabète présente beaucoup de risques aussi bien pour la mère que pour l'enfant à naître. Alphonse Boaki de la RDC veut savoir si le diabète gestationnel est passager et disparaît après l'accouchement.
Naturellement, le diabète gestationnel, quand c'est bien pris en charge, a tendance à disparaître après l'accouchement. Mais si on ne fait pas attention, quand vous avez fait déjà un diabète gestationnel, vous entrez dans la ligne de ceux qui ont des antécédents. Donc, il faut un suivi après l'accouchement parce que vous courez le risque de développer un diabète, cette fois-là, un diabète sucré carrément de type 2.
Grady Bieka Mutombo se demande s'il y a un traitement efficace contre le diabète que la femme développe en cours de grossesse ou le diabète gestationnel. Comment se passe la prise en charge du diabète gestationnel?
Oui, la prise en charge du diabète gestationnel, c'est comme la prise en charge de tous les diabètes. Principalement, deux volets de prise en charge. Le premier volet, c'est le volet que nous appelons non médicamenteux, basé principalement sur des conseils alimentaires.
Quel genre de conseils?
Donc, c'est éviter de consommer les sucres simples et des graisses, encourager la consommation des sucres avec beaucoup de résidus, comme la banane plantain, les ignames, les maïs, les légumes, les fruits contenant peu de fructose ou beaucoup de fibres alimentaires, mais aussi c'est faire l'activité physique, faire une marche, faire plus des activités physiques qui sollicitent les membres supérieurs, par exemple régulièrement faire la lessive, faire la vaisselle, les repassages, ce sont des mesures hygiéno-diététiques en ce qui concerne l'alimentation et même l'environnement de la femme.
Docteur, quel est le deuxième volet?
Le deuxième volet, c'est le volet médicamenteux. Quand le taux de sucre est très élevé, on peut donner l'insuline. Rarement, on donne ce que nous appelons des antidiabétiques oraux.
Ces antidiabétiques oraux ne présentent-ils pas de danger pour la future mère ou le bébé?
Ces groupes de médicaments, des antidiabétiques oraux, ont parfois des conséquences. Si c'est au premier trimestre de la grossesse, il faut les prendre avec pincette parce que ça peut créer des petites malformations au niveau du fœtus qui est en train de se former. Mais aussi, certains antidiabétiques oraux ont des implications à la naissance. Parce que vous savez, j'ai dit tantôt que cet enfant-là, c'est un enfant qui a une hyperglycémie, qui est un macrosome, qui est déjà fragile. Alors quand il naît, vous donnez encore les antidiabétiques oraux. Chez l'enfant, ça risque de passer au niveau de lait maternel et créer des hypoglycémies parce que les antidiabétiques oraux, au fait, ce sont des médicaments qui servent et l'insuline à baisser les taux de sucre dans le corps de la mère. Et quand ça peut passer par le lait maternel, ça peut avoir, surtout en ce qui concerne les antidiabétiques oraux, de l'influence chez l'enfant. Donc, ça peut créer des hypoglycémies chez l'enfant. Ce sont les traitements de complications, on les prend en charge médicalement.
C'est rassurant de savoir que le diabète gestationnel a un traitement, mais vaut mieux prévenir que guérir. Alors, docteur Kéba, comment est-ce que se fait la prévention du diabète gestationnel? Comment est-ce que la femme enceinte peut prévenir le diabète gestationnel?
Je vous ai dit tantôt que quand quelqu'un se connaît déjà, qu'il a des antécédents de diabète dans la famille et qu'il a un âge avancé et tout ça, il limite les apports de sucre qu'il consomme. Il fait souvent exercice physique, il ne mange pas avec les bites. Il programme ses repas par jour, il consulte à temps quand la femme est enceinte. Ce sont des mesures-là qui vous épargnent de faire le diabète gestationnel. Donc, quand vous vous connaissez déjà que vous avez des antécédents, vous avez un âge assez avancé, vous avez un surpoids, vous avez un parent ou une sœur ou un oncle qui a déjà souffert de diabète, vous vous trouvez déjà prédisposé. Contrôlez ce que vous mangez, faire des exercices physiques régulièrement et ça vous prévient à faire le diabète. Et quand effectivement vous êtes diabétique, après une consultation, vous prenez les médicaments et ça vous prévient des complications.
VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Nous avons un auditeur, Eric Kamanda, qui depuis la RDC veut savoir si la consultation d'une femme diabétique enceinte se fera toujours de la même façon que toute femme enceinte normale qui ne présente pas de diabète.
Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est une consultation normale. Mais seulement, la femme doit dire déjà au préalable à son clinicien qu'elle est diabétique ou qu'elle a des problèmes ou elle a des antécédents de diabète. Et là, le clinicien prendra des mesures, des orientations qu'il va lui donner pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire.
Le même auditeur, Eric Kamanda, veut savoir s'il est bon pour qu'une femme diabétique donne régulièrement naissance. Je pense qu'il veut savoir s'il y a une limitation de naissance pour une femme qui développe souvent le diabète pendant la grossesse.
Les naissances ne sont pas limitées. Mais il faut savoir que plus vous donnez naissance, plus vous exposez. C'est comme ça que, autour déjà de la cinquième parité, de la cinquième grossesse, on déconseille aux femmes. Parce qu'à chaque grossesse, il y a une stimulation ou une sécrétion des hormones en cascade dans le corps de la femme. À tout moment, quand une femme tombe enceinte, le placenta sécrète beaucoup d'hormones. Et ces hormones-là sont à la base de l'hyperglycémie parfois, quand surtout ça s'ajoute sur un terrain diabétique. Je l'ai dit tantôt que ces femmes-là étaient prédisposées à subir des césariennes avec des dystocies des épaules ou des fractures de l'épaule chez l'enfant et tout ça. Donc, naturellement, au fur et à mesure que cette femme-là a une grossesse, deux grossesses, donc chaque grossesse de plus expose cette dame-là de plus en plus. Naturellement, déjà, autour de la quatrième, de la cinquième parité, donc de la quatrième, cinquième grossesse, on devra déjà penser à faire une contraception chez cette femme qui fait le diabète gestationnel pour l'épargner de beaucoup de complications qu'elle peut avoir. Et aussi, si c'est une femme très âgée, donc ce sont des personnes, des sujets, on doit veiller à faire une contraception pour éviter de les faire courir des risques déjà graves par rapport à leur état, qui vont être majorés par rapport aux grossesses qui vont s'ajouter.
Est-ce que le diabète gestationnel ne se développe que pendant la première grossesse ou la femme peut avoir des grossesses sans diabète et plus tard, peut-être à la troisième ou à la quatrième grossesse, développer un diabète?
Oui, ça peut arriver chez une femme à la première grossesse, surtout quand elle a des prédispositions. Comme aussi ça peut arriver à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Ça dépend des prédispositions de chaque femme. Donc il n'y a pas une ligne de démarcation qui dise que c'est seulement à telle grossesse ou à telle autre grossesse. C'est là où se trouve le bien fondé des consultations prénatales que les femmes doivent faire régulièrement.
Merci Dr Nkeba. Pour finir notre interview, un conseil à toutes les femmes enceintes qui développent ou non un diabète gestationnel et qui sont en train de nous suivre en ce moment?
Le conseil à donner à toutes les femmes enceintes, c'est seulement celle de leur dire que quand elles sont enceintes, déjà au premier jour, là, quand elle a remarqué au premier mois qu'elle n'a plus de règles, sitôt, elle doit aller consulter. Et lors des consultations, la femme doit exiger à ce qu'on lui fasse tous les bilans possibles, parce que dans certains milieux, il y a des bilans qui sont limités et tout ça, mais je pense qu'au moins partout, on est accessible à faire des examens de routine. Ça doit être dans la mentalité des femmes comme ça, que dès qu'elles constatent qu'elles n'ont plus de règles, elles doivent se diriger vers un centre ou bien vers un hôpital pour commencer ces peines. Et lors de ces peines, on aura à mettre en évidence ce qui peut plus tard compliquer une grossesse.
Merci beaucoup, Dr Nkeba, de nous avoir accordé cette interview.
Non, c'est moi qui vous remercie pour la confiance.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était notre discussion avec le Dr Timothée Nkeba. Il est médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Maintenant, place à Carnet de Santé présenté par Linor Moudou.
Aujourd'hui dans Carnet de Santé, comment arrêter de fumer avec succès? Nous avons recueilli votre avis. Les médecins en République démocratique du Congo prennent des mesures pour lutter contre la maladie du sommeil. Enfin, des chercheurs ont peut-être découvert un moyen de lutter contre la résistance des bactéries aux antibiotiques. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Carnet de Santé. L'habitude de fumer est souvent difficile à arrêter. Selon les experts, la plupart des fumeurs développent une dépendance à la nicotine, une drogue naturellement présente dans le tabac. Cesser de fumer peut donc nécessiter plusieurs tentatives. Alors, comment arrêter de fumer avec succès? Echa Sarai a recueilli vos réactions à Dakar.
Je n'ai aucune méthode pour arrêter de fumer. Ça fait 40 ans que je fume. Mais franchement, fumer, c'est pas bon. Je veux arrêter. Si cela ne tenait qu'à moi, j'allais arrêter. Sur les emballages, ils écrivent que fumer, c'est pas bon pour la santé. La meilleure manière d'aider les gens, c'est d'arrêter d'en fabriquer.
Non, la cigarette, elle n'est pas bonne. On fume ça seulement. Bon, c'est pas bon. Oui, je voulais arrêter. S'il y a la moindre possibilité. Oui, je fume seulement, bon, vraiment. Tu sais, il y a trop de soucis. Parce qu'on fume la cigarette à cause de la souci. Oui, c'est ça.
Mon conseil à ceux qui fument, c'est tout simplement d'arrêter. Ce n'est pas bon de fumer aujourd'hui, ça ne le sera jamais. Ça nuit à la santé, ça joue sur ton cerveau et tu peux même devenir fou.
Je fumais avant, j'avais arrêté et puis j'ai repris maintenant. Là, je fume, mais je n'aime pas la cigarette. J'ai repris, mais ça ne me pose pas trop de problème parce que je fais du sport. C'est juste une question de volonté.
Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, ont les recommandations suivantes pour cesser de fumer. Obtenir l'aide d'un médecin, rechercher des conseils individuels ou en groupe, obtenir des traitements comportementaux. Certains médicaments pour cesser de fumer se sont avérés efficaces, notamment les thérapies de remplacement de la nicotine, telles que des inhalateurs et des médicaments sans nicotine en vente libre ou sur ordonnance. Selon les CDC, le conseil et les médicaments sont efficaces pour traiter la dépendance au tabac et les utiliser ensemble est encore plus efficace. La maladie du sommeil, également appelée trypanosomiase humaine africaine, est une maladie tropicale répandue qui peut être fatale. Elle se transmet par la piqûre d'une mouche tsetse infectée. En RDC, les médecins prennent des mesures afin de réduire le nombre de personnes qui souffrent de cette maladie. Suivons le reportage d'Anastasie Tudesh, notre correspondante à Kinshasa.
Kimwenza, sur les hauteurs de Kinshasa. Dans ce faubourg rural et déshérité que l'on rejoint après 1h30 d'une route parfois impraticable, c'est jour de dépistage de la maladie du sommeil.
C'est une maladie qui a de graves complications, notamment neurologiques. Les malades présentent parfois des tableaux que la population qualifie de folie, avec des troubles de comportement, des agitations et autres.
À l'origine de la maladie et de sa propagation, un insecte, la mouche tsetse, et sa piqûre indolore.
Tous ces gens qui font la pêche, en fait, ils peuvent aussi attraper cette maladie parce que la mouche tsetse adore aller se positionner là où il y a l'ombrage et où c'est calme. Pour des raisons de survie, la population qui vit à Kinshasa va acheter des denrées vers les provinces des Bandundu et en revenant de là, ils amènent la maladie.
Cette mère de famille a emmené son fils pour en avoir le cœur net. Simon est conscient de ce à quoi il échappe.
En tout cas, maladie du sommeil,
Grâce aux campagnes de prévention et de traitement de la maladie par les unités mobiles, la THA et son éradication pourraient bien devenir une réalité. Anastasie Tudiesh, Kinshasa, VOA Afrique.
Les dernières données publiées par l'OMS confirment une diminution constante du nombre de nouveaux cas de maladie du sommeil. L'OMS déclare que la maladie est en voie d'atteindre l'objectif d'élimination. Les bactéries résistantes aux antibiotiques représentent l'une des plus grandes menaces pour la santé mondiale, selon les experts.
Certains chercheurs ici aux États-Unis affirment qu'ils ont peut-être découvert un moyen de lutter contre la bactérie sans que les micro-organismes ne deviennent résistants au traitement. Elizabeth Lee a réalisé ce reportage à l'université Rice de Houston au Texas.
Une équipe de chercheurs de trois universités travaille sur une machine à tuer des cellules invisibles à l'œil nu.
Nous voulons être le pire cauchemar des bactéries.
Ils font des expériences avec de minuscules nanomachines qui peuvent percer une cellule et la tuer. Les machines sont des moteurs à molécules uniques qui peuvent tourner à environ 3 millions de rotations par seconde lorsqu'une lumière bleue les éclaire. Lorsqu'elles tournent, elles percent la cellule. Les bactéries nuisibles ne peuvent pas muter pour vaincre ce type d'arme, explique James Tour.
Nous avons peut-être trouvé quelque chose à laquelle la cellule ne pourrait jamais avoir de résistance.
Les nanomachines sont si petites qu'environ 50 000 d'entre elles peuvent s'adapter au diamètre d'un cheveu humain, explique Tour. En comparaison, environ 50 cellules seulement peuvent occuper cet espace. Ils y parviennent en ajoutant un peptide, également une molécule constituée d'acides aminés, à la nanomachine. Ce peptide reconnaît des cellules spécifiques et lie la nanomachine à cette cellule afin que seules les cellules cancéreuses soient ciblées et non les cellules saines. Une lumière bleue active la machine. Cette année, les chercheurs commenceront à tester des nanomachines sur des rongeurs vivants. Les scientifiques affirment que l'un des objectifs de leur travail est de trouver un moyen d'introduire la lumière bleue profondément dans le corps s'ils veulent combattre des bactéries ou des cellules tumorales bien en dessous de la surface de la peau.
Les chercheurs espèrent que leur technique pourrait apporter une solution afin de traiter une diversité de problèmes dans le domaine de la santé. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons de la prostate. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @lenormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lenore Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.
C'est la fin de cette édition hebdomadaire de Votre santé, votre avenir. Nous avons discuté avec le Dr Timothée Nkeba, qui est médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Nous avons discuté entre autres des causes du diabète gestationnel, des femmes enceintes à risque et des complications que ce type de diabète présente pour le bébé et pour la mère. Ensuite, Lenore Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
Spice me in vain, all I do is complain. She needs something to change, need to take off the ass. So f*** it all tonight. And don't tell me to shut up when you know you talk too much, but you don't got to say. I want you out of my head, I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can say no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingertips.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.